Oh, pas de problème. Je comprends toujours vite quand on m'explique longtemps. Donnez-moi la force de comprendre,
car ces visions seules. Avec Martin Carlier, parlons de ce lancement de ce nouveau télescope orbital.
Oui, absolument. On parle du télescope TESS qui a été lancé à l'aide d'une fusée Falcon 9 cette semaine grâce à la technologie de SpaceX. On a envoyé un télescope qui va prendre la relève du télescope Kepler, qui est un télescope qui va nous permettre de regarder l'espace et d'essayer d'identifier des astres, donc des corps célestes, pardon, qui seraient des exoplanètes, mais encore mieux, qui seraient comparables à la nôtre, donc des boules rocheuses de taille similaire à la nôtre ou un peu plus grosse, et surtout à quelle distance se trouvent ces boules de roche de leur étoile. Donc, je rappelle le critère pour essayer d'identifier une possibilité de vie sur une de ces planètes-là, une de ces exoplanètes-là, c'est est-ce qu'elle est assez proche de son étoile pour que il fasse assez chaud à la surface, mais en même temps, faut pas qu'elle soit trop loin non plus pour pas qu'il fasse trop froid. Donc, essentiellement, on veut être dans la plage de température où l'eau peut être sous une forme liquide, tout simplement. Donc, assez proche, mais pas trop loin non plus. Donc, quelque part au niveau, évidemment, ça va dépendre de l'étoile, la puissance de l'étoile, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on cherche, essentiellement. Il faut savoir qu'avec Kepler, on a identifié plus de 2000 exoplanètes, donc des planètes qui sont à l'extérieur de notre système solaire. Et sur ces 2000 exoplanètes, on en a identifié quelques dizaines qui étaient comparables à la nôtre. Avec le nouveau télescope TESS, qui va graduellement aller rejoindre son emplacement final en orbite autour de nous, eh bien, on pense être capable d'aller identifier là des milliers d'exoplanètes. Là. Je pense que c'est 20 000 qui est l'objectif d'exoplanètes à identifier avec ce télescope-là. Et comment on fait? On utilise avec ce télescope-là la méthode du transit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fixe une étoile et quand on voit la luminosité de cette étoile-là diminuer de façon temporaire, on se dit que c'est parce qu'un corps céleste est passé devant, tout simplement. Par exemple, si sur une de ces exoplanètes-là, il y avait ces télescopes-là qui pointaient en direction de notre Soleil à nous, ils verraient une tache passer quand la Terre passe devant le Soleil, tout simplement.
Okay.
Alors, c'est donc une mission qui est très, très emballante, une mission qui a quand même coûté 337 millions de dollars pour amener ce télescope satellite-là qui a à peu près la taille d'une machine à laver, pour vous donner une idée. Donc, c'est pas très, très gros, mais en même temps, il est équipé de caméras, de quatre caméras qui sont très petites, qui pourraient s'insérer dans une boîte aux lettres, mais qui sont assez puissantes pour pouvoir voir des choses extrêmement loin dans l'espace. Donc, c'est très emballant. En passant, pour ceux qui veulent avoir une idée de la prochaine étape, c'est le fameux télescope James Webb qui devrait être lancé par la NASA en 2019 et qui va remplacer le télescope Hubble. Hubble qui a carrément révolutionné l'observation astronomique. Le James Webb va être beaucoup plus puissant et nous permettre de voir encore plus de choses. Donc, on est en train de...
Ça, c'est pas le gros d'Hawaï, ça. C'est le Webb, là?
Non, il va aller dans l'espace.
Ah, il va aller dans l'espace.
Carrément, exactement. Donc, c'est un autre télescope qui va être en orbite autour de nous, okay, comme le télescope Hubble, mais qui va être beaucoup plus puissant. Ça, c'est le James Webb et ça va être lancé en 2019.
La raison derrière les prouesses des pêcheurs en apnée d'Indonésie, tu disais 13 minutes sous l'eau.
Oui, ils peuvent passer jusqu'à 13 minutes sous l'eau. En fait, faut savoir qu'ils passent une très, très grande partie de leur journée sous l'eau. Pourquoi? Parce que leur vie en dépend essentiellement. Ils vont aller chasser et pêcher carrément au harpon. Donc, ils plongent. Tout ce qu'ils ont essentiellement, c'est leur harpon et un masque de bois. Donc, c'est quelque chose qui est très primitif. Ils peuvent plonger jusqu'à une profondeur de 70 mètres. Juste que vous ayez une idée, là, on n'est pas loin du record du monde des plus grandes plongées. Là, dans les plongées humaines, le record du monde se situe, de mémoire, là, dans le bout de 125 mètres de profondeur. 125-130 mètres à peu près de profondeur atteinte par un plongeur. Là. Donc,
c'est énorme.
C'est énorme, certain. Et malheureusement, lorsqu'il y a des tentatives d'établir ces records-là, il y a des fois où ces tentative-là se termine pas bien du tout et où la personne qui tente ce record-là décède. Là. Mais dans le cas de ces pêcheurs-là...
Parce qu'avec la pression, l'effet de pression... Voyons, je vais finir par le dire. Là. Il y a un effet de pression.
Oui, Mais il faut pas penser que si on...
Il faut que tu fasses des paliers, tu peux pas monter ça d'un coup.
Ouais, c'est ça. Mais on va pas imploser. Là. Au fond de l'océan, on n'a pas une pression qui nous écrase. Ouais, c'est ça. Donc là, par exemple, si tu as du... par exemple, je sais pas moi, si tu as des bonbonnes d'oxygène, mais qui sont mélangées avec de l'azote, et là, tu as de l'azote dans le sang, et ainsi de suite, si tu modifies ta profondeur, tu peux avoir un impact. Il y a toutes sortes d'effets secondaires reliés à ça. Donc, c'est pas très évident. Ici, on parle carrément de plongeurs qui sautent dans l'eau, qui peuvent plonger jusqu'à 70 mètres, peuvent demeurer 13 minutes sous l'eau sans respirer, qui n'ont qu'un harpon et un masque de bois. C'est une tribu en Indonésie, c'est les Bajau, B-A-G-A-U. Et une chercheure américaine s'est intéressée aux prouesses de ces personnes-là. Vous voulez savoir, mais comment ils font? Qu'est-ce qui se passe chez ces personnes-là? Alors, elle a réussi à faire deux choses. Premièrement, à faire des tests d'imagerie médicale sur ces individus-là. Et elle a identifié quelque chose de particulier. La rate de ces individus-là est 50% plus grosse, plus volumineuse que la rate de fermiers sur la même île. Donc, de gens qui ne plongent pas comme ça à longueur de journée pour leur subsistance. De un. Mais de deux, ce qui est encore plus intéressant, elle a fait des tests génétiques. Donc, elle a pris des échantillons de salive, donc des frottis à l'intérieur de la bouche, tout simplement, avec des genres de coton-tige. Elle a réussi à identifier plusieurs gènes qui étaient différents chez ces individus-là par rapport à d'autres personnes qui n'avaient pas ces habiletés-là sur l'île. Et notamment, il y a une modification au niveau d'un gène qui a un impact sur la thyroïde. Et il faut savoir que la thyroïde va jouer un rôle sur la taille de la rate. Alors, deux conclusions là-dessus. Première conclusion, pourquoi ça leur donnerait un avantage d'avoir une rate plus grosse?
Ouais.
Ben, il faut savoir que la rate, c'est un organe qui permet d'envoyer une réserve d'oxygène supplémentaire dans le sang en cas de stress. Donc, quand tu es en état de stress, ce qui est le cas quand tu plonges à 70 mètres de profondeur.
C'est 230 pieds.
Ah non, c'est énorme. Là. On s'entend. Là. C'est énorme. Donc, la rate est capable d'envoyer plus d'oxygène dans le sang. Donc, si leur rate à eux est beaucoup plus volumineuse, ben ça veut dire qu'ils sont capables d'avoir plus d'oxygène au moment d'être dans ces conditions-là. Donc, ça, c'est déjà très intéressant. Deuxième conclusion, on a là, clairement, parce qu'on a vu les modifications génétiques qui sont associées à cette physiologie-là,
ouais.
On a un exemple ici de sélection naturelle, tout simplement. Parce qu'il ne faut pas croire, il faut faire attention, il ne faut pas croire que parce qu'ils plongent, leur gène se modifie. Non, non, non. Mais c'est plutôt parce qu'ils sont issus de familles qui ont ce comportement-là depuis des générations.
Leur génétique s'est modifiée.
Ben, on a favorisé simplement les individus qui avaient les meilleures habiletés. Donc, parce que si tu as des meilleures habiletés, si tu es un meilleur plongeur, ben ça veut dire quoi? Tu vas rapporter plus de bouffe à la maison. Donc, tu es dans de meilleures dispositions pour pouvoir nourrir ta famille, pour pouvoir te reproduire, avoir une descendance. Et donc, c'est tes gènes à toi qui vont graduellement s'imposer dans ta communauté. Donc, on a un bel exemple ici que dans des populations qui existent encore, qu'on pourrait côtoyer aujourd'hui, on voit encore des beaux exemples de sélection naturelle.
Je vais te laisser l'essayer en premier.
T'as une petite face, là.
Non, mais
j'ai peur.
Non, je vais te laisser l'essayer en premier, voir si tu as les mêmes dispositions.
Oh boy, non, je pense pas, mais...
Tu plonges comme une roche, toi?
J'ai la forme de la roche, en tout cas, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais là, on pourrait évidemment se demander, là, je termine là-dessus, on pourrait se demander, mais ça sert à quoi de savoir ça, bien entendu, parce que le but, c'est-tu juste de comprendre ce qui se passe dans ces individus-là? Mais il faut savoir qu'il y a bien des cas, nous, où on peut avoir des conséquences graves si on a manqué d'oxygène. Donc, le ouais. fait de comprendre ça, par exemple, dans un contexte, je sais pas moi, d'AVC ou encore dans des chirurgies ou ainsi de suite, d'essayer de comprendre comment on peut réguler cet apport en oxygène-là chez les individus en comprenant la génétique d'individus qui sont particuliers de ce point de vue-là, ça pourrait nous aider dans toutes sortes d'autres sphères dans la vie.